de santé 88.4.
Ouais, d'accord, mais tu te rends compte, c'est le désordre à l'intérieur. À mon âge, ça doit être le stress des examens.
Ouais, les examens, d'accord. Mais t'as vu aussi comment on mange ?
Ah ouais, t'as raison. T'as une solution ?
Ah, tout le monde se souvient de cette fameuse pub pour un yaourt censé améliorer notre transit. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on s'intéresse à l'alimentation des étudiants. Mangeons-nous si mal que ça ? Geneviève Renaud, diététicienne, est là pour répondre à nos interrogations et nous donner quelques conseils. Mais d'ailleurs, pourquoi faire attention à ce qu'on mange ?
Parce qu'en fait, c'est par respect pour soi. Hein. On a un corps qui est une machine formidable et le fait de le saccager en faisant tout et n'importe quoi, c'est le prélude à un tas d'ennuis à venir. Et puis, c'est un peu comme si vous aviez une superbe automobile que vous faisiez marcher n'importe comment. Voilà, elle a tous les risques de durer moins longtemps et d'être moins performante. Donc, voilà, c'est par respect pour un outil que nous a donné la nature, qui est de très grande qualité. C'est extraordinaire de voir comment ça marche.
Du coup, comment faire pour, on va dire, bien se nourrir, mais sans non plus tomber dans les... sans se priver, entre guillemets.
Sans se priver. Il faut toujours être un petit peu dans l'attention envers ce que l'on fait, hein, de la même façon qu'on porte de l'attention à tous les gestes quotidiens. La nourriture, l'alimentation, c'est quand même la base de la vie. Hein. On sort du ventre de notre mère, on va téter le sein. Donc, et jusqu'à notre mort d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous retient à la vie. Mais ça ne doit pas être fait n'importe comment, parce que là, on gâche tout. Et vous êtes en plus tous à un âge où c'est dommage de saccager un potentiel énorme, que ça soit d'ailleurs... dans l'immédiat, une diminution des performances. Hein. Peut-être que vous arriveriez à mieux réussir aux examens, etc., en mangeant mieux, en sautant pas de repas, etc. Et puis, à long terme, donc, à vous porter bien. Parce que même si on ne veut pas regarder loin dans sa vie, si c'est encore difficile, et à votre âge, on veut vivre dans l'instant, je suppose. Bon, voilà, ça va, les années passent vite et c'est bien de se préserver et d'être toujours bien opérationnel.
Oui, vous venez juste dire de ne pas sauter de repas, donc alors, c'est important voilà, d'avoir trois repas par jour, c'est voilà, primordial. Ouais.
Alors, s'il y a quelque chose que tout le monde doit retenir de cet entretien, c'est effectivement que sauter des repas, ça n'a jamais été bon. Ça n'a jamais été bon parce que ça favorise le grignotage. Si je ne prends pas mon petit déjeuner ou si je bâcle le repas de midi, je vais avoir très tendance à grignoter en dehors des heures traditionnelles. Et du coup, quand on grignote, ce n'est pas des carottes râpées, ce n'est pas des radis, ce n'est pas forcément des fruits, c'est plus souvent des cochonneries, pour être clair, et puis notamment ce que nous appelons, nous diététiciens, des aliments de forte densité calorique. Donc tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment mangé avec ton pain au chocolat, etc., mais tu as pris beaucoup de densité calorique, et puis tu n'as pas forcément apporté les bons nutriments essentiels à la vie. Hein. Donc il y a des manques d'un côté, manque de nutriments, de vitamines, de choses essentielles, et puis il y a un excès d'un autre côté d'aliments ou de nutriments dépourvus quand même d'intérêt. Donc sauter des repas, c'est surtout le truc à pas faire. Et déjà, à commencer par le petit déjeuner. Toutes les études montrent ça a été beaucoup fait chez les jeunes, ces études-là. Sauter le petit déjeuner, ça rend moins performant. Ça pousse à grignoter, et ça favorise la prise de poids parce que ce grignotage, il va bientôt se transformer. Dès que je mange plus, mon corps a tendance à stocker, ce qui correspond à la physiologie de l'être humain et même des animaux d'ailleurs, hein, c'est on stocke quand on a, hein. Bon, ça revient de loin, puisque ça revient du début de l'homme, qui devait résister aux famines et qui, de ce fait, a stocké, dès qu'il avait l'occasion, de bien manger, après avoir chassé le bison. Voilà, donc on stocke et on stocke du gras en plus.
Et justement, pour pallier à ce stockage de gras, on a des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, il y a souvent de nombreux, on va dire, régimes qui sont médiatisés, accompagnés plus ou moins souvent de scandales. Quel est votre avis sur ces régimes qui existent ?
Ben, ils sont souvent dangereux, graves, etc. C'est vraiment très, très dommage, voire grave pour la santé, de s'imposer des régimes draconiens. Hein. On risque tout à fait l'effet inverse, c'est-à-dire on va commencer à rentrer dans une spirale de prise de poids et je veux le perdre vite et je fais n'importe quoi, donc un régime basse calorie, ni fait ni à faire bien souvent. Au bout de quelques jours, j'en ai marre, je me remets à manger et puis chaque fois que je mets mon organisme en restriction calorique, il va puiser son énergie là où c'est le plus facile pour lui, c'est-à-dire dans les muscles et dans les viscères. N'oublions pas que les reins, le foie, ce sont des viscères aussi. Hein. Et l'os aussi est touché par la restriction énergétique. Le fait de puiser dans nos muscles, ben déjà ça peut nous rendre moins performants, moins solides, fatigués. Dans les viscères, n'en parlons pas, là ça commence à devenir grave. Mais de puiser dans notre muscle est tout à fait contre-productif, puisque c'est le muscle qui dépense le plus d'énergie. Alors, en dehors du cerveau, notre cerveau consomme, ce qui est faramineux, 140 grammes de glucose par jour. Bon, qu'on pense ou qu'on pense pas d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence. Et du coup, quand on se met au régime, et notamment au régime très hypoglucidique, alors je supprime le pain, les patates, etc., type Atkins, type Ducan, type Scarsdale, etc. Enfin bon, il y en a une myriade. Quand on se met un régime draconien, donc je disais très hypoglucidique, pour alimenter le cerveau, notre corps va puiser, je vous disais, dans là où ça lui est le plus facile, donc il va puiser dans notre masse musculaire. Or, cette masse musculaire, une fois qu'elle a fondu, notre niveau de dépense énergétique a baissé. Donc, après, quand on remange un petit peu plus, eh bien, on a encore plus facilement tendance à stocker. On baisse ce qu'on appelle notre pondérostat, c'est-à-dire notre équilibre pondéral. Donc vraiment, tout faux sur toute la ligne. Il vaudrait mieux, plutôt que de faire des régimes draconiens, si vraiment il y a un souci, hein, faire un rééquilibrage alimentaire. Alors je dis s'il y a un souci parce que effectivement, statistiquement parlant, il a été mesuré que 70% de femmes de poids normal souhaitaient perdre du poids. Donc c'est n'importe quoi. Hein. Tout ça pour répondre aux critères de la mode, certainement, etc.
Et pour les hommes, c'est pareil.
Alors, pour les hommes, c'est beaucoup plus modeste. Les hommes, en général, il y en a 30%, j'arrondis, hein, évidemment, qui souhaitent perdre du poids. Bon, c'est quand même typiquement féminin, voilà, vouloir plaire, être beau, etc. Mais quand on pense qu'il s'agit de personnes qui ont un poids normal, c'est quand même assez frappant. Et donc, ces personnes, en faisant le jeu justement des médias, la pression sociale, la pression des dictats de la mode, ces personnes-là vont se retrouver à rentrer dans une spirale infernale et arriver très vite à ce qu'on appelle l'effet yo-yo.
Et justement, du coup, l'effet yo-yo, comment on peut l'expliquer ? Parce que souvent, on peut se penser que l'effet yo-yo, c'est quelque chose de psychologique ou c'est quelque chose de plus...
Ah, c'est physiologique.
C'est physiologique, c'est donc il y a une raison médicale à ça.
Ah, tout à fait. Ben, la raison, c'est qu'effectivement, les deux, si vous voulez, psychologiquement, si je m'astreins pendant une semaine, deux semaines, 15 jours à un régime draconien, il est évident que ça va être lassant, ça va être dur physiquement, ça va être dur moralement, je vais fantasmer énormément sur un tas d'aliments, je vais me désocialiser, moyennant quoi, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je vais avoir envie de craquer, et souvent, quand, ou même simplement ayant perdu le poids que je souhaitais perdre, je vais avoir envie d'arrêter, et retourner à mes vieux démons, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, à mes pizzas, à mes aliments de forte densité calorique. Donc, j'ai, pendant cette période de restriction importante, j'ai perdu de la masse maigre. Et dès que j'arrête, j'ai baissé.
Donc la masse maigre, c'est voilà, les muscles et les viscères.
Les muscles et les viscères. Et dès que... Donc j'ai baissé mon pondérostat. Et dès que mon métabolisme, si vous voulez, il se réduit automatiquement. Et dès que je me remets à manger, entre guillemets, normalement, même sans faire extrêmement d'excès, j'ai tendance à reprendre. Alors, le meilleur moyen d'éviter l'effet yo-yo, c'est effectivement d'être toujours dans une certaine mesure. On appelle ça la pression cognitive. La pression cognitive, c'est faire un petit peu attention à ce que je fais, quoi. Quand vous traversez la route, vous faites attention de passer dans les passages cloutés. Ben là, c'est pareil. Je veux dire, c'est vrai que... Il y a tellement de choses à surveiller dans notre vie de tous les jours, il y a tellement d'autres chats à fouetter que c'est souvent mis de côté cette nécessité d'être attentif à ce qu'on mange. Mais c'est quand même quelque chose de très important. Alors, on a parlé de ce qu'il fallait manger, mais on oublie de parler de ce qu'il faut bouger. Hein, c'est la deuxième clé de voûte.
Oui, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre. Il faut toujours accompagner activité physique.
Parce que déjà, ça entretient notre masse musculaire. Mmh. Bon, et puis, quelquefois, quand on a envie de manger, d'aller faire une balade, le tour du pâté de maison, promener son chien, une séance de piscine, etc., permet de nous dériver l'envie, hein, parce que c'est souvent l'envie. De manger. Hein. On parlait des conseils que je pouvais donner. Donc, je disais tout à l'heure, éviter de sauter des repas. Ça, c'est vraiment alors, le béaba du béaba. J'ai travaillé dans le service de nutrition où on reçoit des extrêmes obèses, des extrêmes maigres. Hein. On va de 25 kilos à 225, si on veut. Des boulimiques vomisseuses, etc. Et donc, qu'est-ce qui ressortait le plus souvent comme dénominateur commun? C'était effectivement les repas sautés. Hein, donc, commençons par appliquer cette consigne en se disant que le petit déjeuner, par exemple, c'est le premier qu'il ne faut surtout pas sauter. C'est un repas qui doit rompre le jeûne. Rompre le jeûne. Alors, il est évident que si vous avez mangé comme 4 la veille au soir, vous n'aurez peut-être pas très faim. Bon, alors l'idéal, c'est de ne pas manger comme 4 tous les soirs. Et justement, de respecter les vieux principes. Alors, vous allez dire que je suis rétro, vieux jeu, etc. Dans toute ma vie de travail, et j'en ai vu des gens, hein, j'en ai interrogé sur leurs habitudes alimentaires, je suis restée persuadée que le vieux principe du repas de roi le matin, du repas de prince à midi et du repas de pauvre le soir, eh ben, c'était une très bonne chose.
Oui, il est préférable de manger léger le soir, du coup.
Pas forcément léger, oui. Mais pas comme 4, en essayant de rattraper tous les repas de la journée qui ont été sautés ou bâclés. Et c'est vrai que c'est difficile à l'heure actuelle, puisque la plupart d'entre nous mangeons à l'extérieur. Donc, si les parents ne sont pas vigilants à habituer les enfants systématiquement à manger le matin... ça fera déjà un repas de saboté. Vous, avec vos horaires de cours, avec peut-être vos problèmes d'argent, etc., vous allez peut-être bâcler le repas du midi et vous orienter sur un seul repas par jour. Ce repas-là, il va être pris le soir. On est détendu, etc. On se retrouve avec les potes. Le problème, c'est que ce repas exacerbé, il va se stocker. On n'en a pas besoin pour toute la nuit. On a besoin d'un minimum, mais on n'a pas besoin d'un excès. D'accord. Voilà.
Oui, comme on ne fait pas d'activité physique
en plus, oui.
Pendant le sommeil, on ne dépense pas cette énergie.
Oui. Alors que si j'ai bien mangé le matin, je ne stocke pas. Hein. Le contenu du petit déjeuner, à part si j'ai pris 10 croissants, il n'est pas stocké. Alors que le repas du soir, si j'ai pris une pizza, une glace derrière, et puis avec ça du coca sucré, et puis je ne sais trop quoi, quelques friandises hein, ou des biscuits apéritifs, eh ben j'ai tout lieu de stocker, parce que là je vais arriver vite fait à 2000 calories, voire plus. Bon, voilà.
C'était Bonaparte avec Quarantine. De nombreuses personnes suivent un régime végétarien. Geneviève Renaud nous explique comment être justement un bon végétarien.
Alors le régime végétarien, s'il est bien fait, peut tout à fait suffire, peut tout à fait subvenir à nos besoins. Alors le régime végétarien, il n'est pas suffisant de dire « je ne mange pas de viande, pas de poisson » par idéologie ou par dégoût ou par problème financier, « je n'en mange pas et je suis végétarien ». En fait, le régime végétarien, c'est au-delà de ça. C'est une autre forme d'hygiène et c'est même une pratique particulière qui répond à certaines exigences. Si on veut faire un régime végétarien bien fait, hein, donc qui ne soit pas carencé, effectivement, il faut essayer de maintenir les produits laitiers hein, et les œufs éventuellement. Bon, voilà, mais au moins les produits laitiers. Et surtout, il faut appliquer certains principes qui sont la complémentarité des protéines végétales. Donc, dans la nature, pour nourrir notre chair. On n'a jamais rien fait de mieux que de manger de la chair, si vous voulez, c'est logique. Hein. Les cellules, elles doivent être ravitaillées par d'autres cellules qui contiennent des protéines de bonne valeur biologique. Donc ces protéines de bonne valeur biologique, hein, elles se trouvent effectivement dans la chair des animaux et des poissons, elles se trouvent dans les produits laitiers, donc les dérivés des animaux, dans les œufs, et par opposition, les protéines végétales ont des manques. Elles ne sont pas de bonne valeur biologique. Elles ont ce qu'on appelle des facteurs limitants. Si vous voulez, comme une brique à laquelle il manquerait un côté. Alors, toute l'astuce du régime végétarien bien fait, c'est d'associer différents végétaux entre eux, ou des végétaux et des produits laitiers, de façon à ce que les briques s'imbriquant bien, compense ce manque et rende ainsi les protéines beaucoup plus performantes. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais c'est plus un art, hein, c'est une association. Alors par exemple, il s'agit d'associer à nos céréales, donc le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le sarrasin, donc le pain, les biscottes, les galettes bretonnes, le maïs, etc. Il s'agit d'associer à nos céréales des légumineuses, dont on sait tous un petit peu qu'elles sont riches en protéines. Donc, céréales et légumineuses, leurs facteurs limitants vont se compenser. Ou bien d'associer aux céréales des produits laitiers. Alors, si je vous donne des exemples, depuis la nuit des temps, l'humain n'a pas toujours réussi à trouver le bison après des jours et des jours de chasse. Et donc, il s'est certainement rabattu sur ces fameuses associations. Et l'histoire nous le prouve, et Dieu sait si on en est friand. Par exemple, au Maghreb, on a toujours associé la semoule de couscous et les pois chiches et d'autres légumes. Ça se suffit, hein. Il n'est pas nécessaire de mettre des grandes quantités de viande. Rien que ça, c'est suffisant. En Asie, ça sera le riz et le soja, par exemple. En Amérique du Sud, ça sera les tacos avec des haricots rouges. Donc, sous toutes les latitudes, l'humain a su compenser les manques alimentaires. Et c'est bien grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Hein, sinon, on n'aurait pas pu grandir et prospérer.
On dit souvent que quand on ne mange pas de viande, on a des manques de fer, par exemple.
Ah, tout à fait, ça c'est sûr. Oui.
Et donc, quelle légumineuse conseillez-vous pour pallier ce manque de fer, s'il en existe ?
Ce n'est pas un aliment en soi. On ne peut pas dire un aliment, il porte toutes les valeurs. Il n'y en a qu'un, si, qu'on pourrait citer comme étant de très grande valeur, c'est le lait. Le lait contient pratiquement tout. Sauf le fer. Mais à tel point que le bébé qui ne se nourrit de lait, grosso modo, que jusqu'à 6 mois, ce bébé va prendre 30 grammes par jour. Donc on comprend bien que dans le lait, il y a pratiquement tous les ingrédients nécessaires. Et pour le faire, eh bien, il va se débrouiller avec celui que lui a donné sa maman et qu'elle a mis dans son foie d'embryon, de fœtus. Et qui va lui permettre d'attendre les 6 mois pour commencer à diversifier son alimentation. Donc voilà, le lait, c'est un aliment de très grande qualité. Et le docteur Orwen vous disait l'autre jour que effectivement, depuis la préhistoire, on en mange du lait. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Effectivement, il y a un phénomène de mode qui fait que maintenant, il y en a plein les supermarchés, là, des desserts. Mais c'est plus l'aspect financier des fabricants et l'aspect sympathique, agréable au goût, qui fait que on exagère. Hein. En réalité, 3 produits laitiers par jour suffisent. 4 pour les enfants, 4 pour les personnes au-delà d'un certain âge. Mais bon, grosso modo, pour les adultes, 3 suffisent. Donc, il n'est pas question de dire « haro » sur le lait. Reconnaissons-lui sa grande valeur. Voilà. Je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question.
C'était par rapport au fer.
Par rapport au fer. Donc le lait est exempt de fer, effectivement. La viande, c'est une des sources essentielles de fer. Donc, on risque tout à fait d'en manquer. Alors, justement, les végétariens savent un peu compenser ça en utilisant
des lentilles, par exemple, ou des...
Oui, voilà. Déjà, effectivement, les légumineuses riches. Et puis, en ayant pas mal de légumes, les légumes verts sont assez riches en fer. Alors, le problème du fer végétal, c'est qu'il est souvent mal absorbé aussi. Mais, bon, l'un dans l'autre, l'organisme s'adapte assez bien. Donc, en utilisant de la levure, aussi des levures de bière, des choses comme ça. Il y a après un tas de produits que le végétarien rajoute dans son quotidien qui vont lui permettre de renforcer son apport en fer. S'il y a quelque chose aussi que je voudrais faire passer comme message, c'est... éviter les boissons sucrées. C'est catastrophique ce que ça apporte au niveau des calories. Et en plus, tout ce qui est pris sous forme liquide, sachez une chose, c'est que toutes les recherches scientifiques ont montré que notre corps ne savait pas le repérer sur le plan de l'apport qualitatif. Autant notre corps, dans notre cerveau, si vous voulez, on a une magnifique machine à compter qui sait déterminer l'effet post-ingestif des aliments et qui sait, à la fin du repas, nous dire stop ou, à la fin de la journée, nous dire t'as assez mangé. Si on l'écoute, cette petite machine. Autant le corps donc, sait bien repérer ce qu'il lui faut en produits solides, il est leurré par les calories liquides. Donc, il y a eu énormément d'expériences scientifiques qui ont montré qu'on ne savait pas estimer l'effet post-ingestif de la prise d'une boisson sucrée. Donc, on en prend une, on en prend deux, on en prend trois. Et puis, on ne déduit pas de notre repas suivant l'apport calorique que nous a donné cette boisson. Du coup, on a tous les risques de prendre du poids. Donc voilà, message très très important. À la limite, il vaut mieux requérir, si vraiment vous ne savez pas vous en passer, il ne faut pas exagérer non plus, il faut boire de la flotte, c'est quand même essentiel à la vie. Si vraiment vous n'arrivez pas trop à vous en passer, modérément, vous pouvez toujours recourir à des boissons light, mais light, des boissons sucrées, mais light, quoi.
Par rapport au niveau de l'alcool, quels sont les méfaits de l'alcool sur notre métabolisme?
Alors bon, on sait bien tous les effets sur la santé.
Oui,
alors
santé,
c'est pas une fois, c'est-à-dire qu'en fait, l'alcool, c'est le deuxième nutriment. Les nutriments étant les protéines, lipides, glucides, alcool, c'est le deuxième nutriment le plus riche en calories. À titre comparatif, 1 g de sucre va vous donner 4 calories, 1 g de graisse va vous en donner 9, 1 g d'alcool va vous en donner 7. Et l'alcool... Il va être utilisé à des fins métaboliques, il va permettre d'économiser les calories que j'ai ingérées par ailleurs. Donc, bénéfice net, je vais stocker quand je prends de l'alcool. Donc, je vais stocker du gras. La seule forme de stockage que nous ayons dans notre organisme, c'est le gras. D'autant plus qu'on ne bouge pas. Si, effectivement, je fais pas mal d'activités physiques, je vais renforcer ma masse musculaire. Donc, je vais stocker du muscle. Si, par contre, je mange beaucoup et je ne bouge pas, je vais stocker. Et la seule forme, c'est stockage de gras. Et le gras, on l'a dit tout à l'heure, c'est un tissu, bon, déjà, qui, pour beaucoup, paraît disgracieux. Il ne se met pas forcément là où on veut. Et donc, c'est un tissu qui a une vie propre et qui a une vie pathologique à partir d'un certain excès. Voilà. Oui, alors, ce que je voulais dire, qui me paraissait aussi très important, c'est que souvent... Alors, déjà, on mange trop vite. Bon. Et du coup, on n'a pas le temps d'atteindre la sensation de satiété. Et là, c'est catastrophique. Le fait de manger vite, donc de ne pas mâcher, déjà, ça peut altérer la digestion, parce que dans l'estomac, il n'y a pas de dents, hein, c'est dans la bouche, donc c'est là que ça doit se passer, et on doit mâcher ses aliments et prendre le temps de manger pour arriver au bout d'une demi-heure, c'est ce qui est le plus souhaitable, à effectivement ressentir la satiété. Bon, autre chose que je voulais signaler, c'est arrêter de confondre nos besoins et nos envies. Hein. Toujours essayer de se demander, est-ce que j'ai faim, mais vraiment dans mon ventre, ou bien est-ce que c'est dans la tête? Et si c'est dans la tête, c'est pas de la faim, c'est plus une envie. Donc là, voilà, essayer de détourner ses envies. Souvent aussi, quand on s'ennuie, hein, on croit que voilà, on a envie de manger ben, pour couper le temps, pour passer le temps. Quand on est angoissé, bon, Dieu sait si c'est fréquent aussi chez les étudiants, hein, avec tous les stress liés aux examens. Et quand on est angoissé, on a besoin de lâcher la pression ou de se déstresser avec une prise alimentaire. C'est quelque chose qu'il faut essayer. Il faut contourner la difficulté, essayer de trouver d'autres remèdes au stress, aller faire un tour, une séance de sport, un câlin, quelque chose qui ne va pas se mettre sur les hanches.
C'est la fin d'Enjeu de Santé, en espérant ne pas vous avoir coupé l'appétit. Pour une alimentation saine, il faut donc lui donner une attention particulière sans néanmoins tomber dans l'obsession. Et comme disait ce grand intellectuel français, bien manger, c'est le début du bonheur. Vous pouvez retrouver les infos et le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Salut à tous et à la prochaine.